Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Deuxième volet sur l'art contemporain, considéré comme une boussole des relations entre les pays. L'art est un outil politique de nouvelles régions dont la Chine et d'autres nations de la zone asiatique, mais aussi l'Amérique latine et l'Afrique, proposent d'autres voies que celles américano-européennes. Mais le soft power américain n'est pas pour autant détrôné et l'Occident dans son ensemble reste en tête dans la course à l'influence culturelle. Nos invités en studio avec moi, Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain avec trois espaces à Paris et un à Bruxelles. Nathalie Obadia qui est également enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain, édition Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Et au téléphone, Alain Commun, professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, contributeur de la presse artistique. Son dernier ouvrage, Le Monde des Galeries, art contemporain, structure du marché et internationalisation, paru aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Nathalie Obadia, nous avons fait un large tour des foires d'art dans le monde, du changement à venir à Paris, la FIAC qui a perdu le contrôle pour passer cet grand rassemblement d'art contemporain sous l'égide de Paris Plus. J'aimerais comprendre, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, quel est le rôle finalement d'Internet. On peut se poser la question de savoir si les foires ont encore du sens à l'ère d'Internet, et peut-être même aussi les galeries.
Alors, je me souviens de débat il y a une trentaine d'années quand j'ai ouvert la galerie, tout le monde me disait « n'ouvre pas de galerie, il n'y aura plus de galerie parce que les ventes aux enchères vont manger les galeries ». Voilà. Alors aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, et aujourd'hui, le nouveau débat, c'est « attention, attention, Internet va effectivement manger les galeries, les foires, parce qu'on peut acheter autrement ». Alors tout ça est heureusement faux, mais on dira qu'Internet a amplifié notre visibilité. Mmh. Voilà. C'est grâce à ce qu'on appelle Internet, c'est-à-dire à l'intérieur d'une galerie, notre compte Instagram qui est nourri chaque jour par des contenus. C'est aussi l'envoi de newsletters, de ce qu'on appelle les previews des foires à nos collectionneurs, avec effectivement ce que nous allons montrer avec le prix. Donc on entre en contact en amont des foires. C'est la même chose pour ce qu'on appelle les communiqués de presse qui sont envoyés à tout notre fichier pour les expositions qui ont lieu à la galerie. Donc tout ça ne fait qu'amplifier la visibilité de la galerie, mais en rien cela ne peut remplacer les foires et les galeries. Une galerie, elle a besoin d'un ancrage, de locaux. On a besoin d'aller voir les foires parce que c'est quand même toujours très magique d'aller de stand en stand et de découvrir des chefs-d'œuvre ou des artistes en devenir, et c'est aussi la même chose pour les ventes aux enchères. La seule chose, c'est que par contre, alors ça nous a beaucoup aidé pendant les années, les deux années du Covid, où il a fallu énormément communiquer, et on a aussi fait des ventes grâce justement à cette technique par Internet. Et il est vrai aujourd'hui que notamment les très jeunes acheteurs asiatiques sont très férus de tous les outils d'Instagram et d'échange par Internet, et à un certain nombre de ventes, notamment d'artistes très à la mode, dans les ventes de Hong Kong notamment, se sont faites grâce à ça. Voilà, c'est-à-dire que ça a maintenu un marché, mais le revers de la médaille, c'est que ce sont souvent de très jeunes collectionneurs, de très jeunes artistes. C'est un petit peu comme on joue au casino et qu'après il y a des reventes. Enfin voilà, il y a une espèce de jeu, donc je dirais que c'est pas très très sérieux sur le long terme, mais ça amène un chiffre d'affaires, effectivement.
Alain Commun, votre commentaire sur ce que vient de dire Nathalie Obadia et l'impact d'Internet sur le marché de l'art?
Oui, qu'en fait, nous sommes très d'accord. Nathalie Obadia fait partie de ces galeries qui n'hésitent pas à dire la réalité, à savoir que pour le premier marché, le rôle d'Internet a été important pendant la période du Covid, mais qu'il est sinon tout à fait exceptionnel et que la rencontre avec les œuvres, avec les galeristes, avec les galeries, reste extrêmement importante, du moins pour les collectionneurs sérieux qui constituent le cœur de l'activité des galeries.
Alors, on poursuit sur le même registre, mais pas tout à fait. Nathalie Obadia, les NFT, ces fameuses œuvres virtuelles certifiées uniques, ce qu'on appelle des jetons non fongibles en français. Quel regard leur portez-vous ? C'est un problème pour les galeries ?
Non, ce n'est pas un problème pour les galeries. Il y a une excitation depuis un an sur ce phénomène, mais déjà on voit que ce n'est pas si rose que cela, puisqu'on a vu des artistes dont les prix s'étaient envolés et qui sont en train de redescendre. C'est la même chose, c'est-à-dire que si cela va se développer, mais avec des artistes sérieux, dans un circuit beaucoup plus sérieux, ça va être à côté. C'est-à-dire qu'il va y avoir le monde de l'art tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec des œuvres physiques, des œuvres uniques, avec des certificats pour justement bien montrer que ce sont des œuvres à part entière. Et à côté de ça, il va y avoir le monde effectivement des œuvres NFT, qui n'est finalement que la prolongation d'un art conceptuel, puisqu'il s'agit juste de se dire je suis propriétaire parce que j'ai un certificat qui me dit que je suis propriétaire d'une image que tout le monde peut se passer sur un écran. Donc moi je suis restée toujours très très dubitative. Je pense que voilà, ça va se développer d'une autre manière, mais que ça ne va pas entacher du tout le monde de l'art tel qu'il est aujourd'hui.
On dit que c'est tout de même 2% du marché. Alain Comin, votre avis sur la question des NFT ?
Alors, je serai encore plus sévère que plus sceptique que Nathalie Obadia concernant les NFT. Nathalie Obadia a la gentillesse de faire le lien entre le marché des NFT et l'art conceptuel, mais il me semble qu'aujourd'hui, les NFT sont complètement dans un univers parallèle au marché de l'art pour justifier des niveaux de prix qui sont quand même des niveaux de prix assez délirants. On a parfois atteint les 60 millions de dollars pour des créateurs, que je n'appelle pas justement des artistes, mais qui sont totalement inconnus du marché de l'art, totalement inconnus du monde de l'art. Donc il me semble qu'aujourd'hui, les NFT sont essentiellement l'objet d'une rhétorique qui les rattache au monde de l'art, mais qu'ils en sont quand même extrêmement disjoints. Je ne veux pas dire que plus tard, ils ne pourront pas donner lieu à un véritable marché qui s'ancrerait dans une démarche artistique, mais aujourd'hui, on en est quand même extrêmement, extrêmement loin. On est ailleurs, on a un marché qui prétend se rattacher au marché de l'art, mais la réalité est quand même très différente.
Alors, c'est peut-être le moment à ce stade et à ce de développement de toutes les thématiques qu'on a abordées. Vous avez parlé du rôle que reprenait Paris comme centre européen de l'art. Nathalie Obadia, il y a un intérêt aujourd'hui grandissant à la fois du public et du marché pour des artistes non occidentaux. Qui a la cote ? Quel continent est aujourd'hui peut-être plus recherché qu'un autre ? En tout cas, voilà, quelle photographie pourriez-vous nous donner de l'art non occidental aujourd'hui ?
Voilà, je pense que c'était on va dire naturel, normal que la création contemporaine et que les décideurs de ce secteur, que sont les conservateurs de musées, mais aussi les collectionneurs, les critiques d'art, la presse en général, s'interrogent et regardent ce qui se passe hors justement de ce monde occidental qui dominait vraiment toute la place. Ça s'est fait de manière, étape par étape, déjà parce qu'un pays comme les États-Unis, qui est toujours le grand gagnant et le grand pays dominant du marché de l'art, a à l'intérieur de son pays justement des minorités qui sont aujourd'hui de plus en plus reconnues au sein de la scène artistique. Je pense notamment à ce qu'on appelle les artistes afro-descendants. Mais il y a aujourd'hui une curiosité qui se porte sur les artistes justement qu'on appelle les Native Americans, donc voilà, les descendants des Indiens, on va dire, aujourd'hui. Et puis cette curiosité s'est portée aussi vers le monde, un autre monde qui s'ouvrait économiquement, et donc qu'on est allé pénétrer d'abord sur le plan économique, et puis après on s'est rendu compte que culturellement c'était aussi très très intéressant, c'est le monde asiatique, à travers évidemment d'abord la Chine qui s'est ouverte à la fin des années 70, donc on a pu se rendre compte de la création artistique contemporaine, poussée aussi d'ailleurs par le pouvoir chinois, donc évidemment ça a été un marché en plus. Effectivement, comme la Chine était devenue puissante, la Corée s'est aussi énormément ouverte à l'art contemporain, tant au niveau de la création que sur le marché. Et effectivement, c'est au moment où le Japon, qui avait été quand même assez actif dans les années 80, mais plus sur le plan du marché, c'est-à-dire qu'il venait acheter, on allait vendre au Japon les artistes, les maîtres modernes de l'Europe et aussi les pop américains. Mais d'un autre côté, c'est un pays qui vieillissait et qui aujourd'hui est un peu en retrait de la scène artistique. Voilà. Et ensuite, c'est la même chose au Moyen-Orient, où voilà, il y a une ouverture grâce à la Biennale de Sharjah, grâce à la foire de Dubaï, aujourd'hui évidemment avec Abu Dhabi et des musées aussi au Qatar, il y a une émergence et une visibilité de la scène du Moyen-Orient. Et la formation des conservateurs, des commissaires d'exposition en Occident a été aussi très importante. Ils se sont, leurs professeurs, ils se sont ouverts à la création non occidentale. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on voit ces artistes exposés dans des galeries, la plupart du temps quand même occidentales, et on les voit apparaître dans les biennales et dans les foires du monde entier.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, on n'a pas parlé de l'Afrique. Alors, peut-être déjà, Alain Comin, un commentaire sur ce qu'a dit Nathalie Obadia, et après ça, on parlera de l'Afrique.
Alain Comin. C'est juste le point que je voulais compléter, ce que vient de dire Nathalie Obadia. La fresque me semblait extrêmement juste. Simplement, il me semble nécessaire de la compléter pour les années les plus récentes, avec, comme elle l'a mentionné, les artistes afro-descendants des États-Unis, mais également de plus en plus des artistes africains, qui sont en réalité très souvent des artistes issus de la diaspora africaine, qu'ils vivent donc désormais soit en Europe, soit aux États-Unis, mais qui sont très souvent nés et qui ont été formés, même pour certains d'entre eux, en Afrique. Et ça, je pense que c'est un mouvement qui est d'autant plus intéressant que l'arrivée des artistes chinois sur la scène internationale avait été une arrivée qui avait été énormément marketée de façon un petit peu brouillonne. On n'était pas forcément toujours très au clair sur quels étaient les bons artistes, quels étaient les moins bons artistes. Je pense que du point de vue occidental, aujourd'hui, on arrive à lire de façon beaucoup plus claire quels sont les artistes d'origine africaine véritablement intéressants. Et donc les artistes d'origine africaine me semblent destinés à rester de façon plus durable sur le marché et dans l'histoire de l'art que ne l'ont fait les artistes chinois.
Ah oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse d'Alain Comin sur aujourd'hui une certaine maturité justement des artistes issus du continent africain, même si il y a une certaine mode et qu'on voit une esthétique qui semblerait être celle qui plairait aux acheteurs occidentaux et qui est un peu, on va dire, un peu agaçante. Mais au-delà de ça, il y a une nouvelle génération aujourd'hui d'artistes issus du continent africain et qui proposent vraiment des œuvres et un parcours très, très intéressant et que l'on retrouve dans le circuit des grandes biennales, dans le circuit aussi des galeries voilà, qui comptent et qui font que sur le long terme, bien entendu, que ces artistes maintenant font pas. Sont vraiment dans l'histoire de l'art et dans le marché de l'art.
Alors, des artistes africains, est-ce qu'il y a aussi des galeries africaines qui ont aujourd'hui peut-être pignon sur rue sur les territoires extra-africains et puis peut-être des foires à venir, Alain Comin, est-ce que voilà, sur le continent africain, il y a des choses que vous sentez qui pourraient se passer dans un avenir plus ou moins proche?
Alors, il existe d'assez longue date des galeries qui sont des galeries avec une véritable influence, notamment les galeries sud-africaines, et en particulier une galerie, qui est la galerie Goodman, qui est à la fois installée en Afrique du Sud, mais qui est également installée aujourd'hui, en plus, à Londres. Et puis, il y a des galeries qui tentent à émerger donc en Afrique de l'Ouest, mais ces galeries sont quand même beaucoup moins importantes que ne sont les galeries notamment européennes ou les galeries donc états-uniennes ou même les galeries brésiliennes, les galeries donc asiatiques, coréennes en particulier, et pour certaines d'entre elles.
Alors, un élément qui m'a surpris, vous souhaitez rajouter quelque chose à la télévision?
Juste pour finir avec ce que disait Alain Comin, qui est tout à fait juste, c'est-à-dire que les artistes du continent africain qui commencent une carrière internationale, leur souhait est de garder la plupart du temps leur ancrage dans la galerie du continent africain, qui d'ailleurs les a fait connaître, mais ils sont vraiment à la recherche d'une galerie internationale ensuite, et c'est une manière aussi d'entrer dans le jeu du marché de l'art, du monde de l'art, en étant associé aux artistes occidentaux et donc de pouvoir accéder aux mêmes règles, on va dire, de promotion. Ça, je m'en rends compte puisque là, je vais montrer un artiste africain qui a été très remarquée à la dernière Biennale de Venise, et tout en gardant justement son ancrage dans deux galeries en Afrique, voilà, aujourd'hui, son souhait était justement d'entrer dans des galeries occidentales.
Alors, la question qui m'interpelle, c'est la Chine. Vous l'avez évoqué en décrivant la méthode brouillonne de la Chine. On pouvait précisément penser que la Chine avait une stratégie institutionnelle en matière d'art qui était très, très établie et très dictée par le haut, Alain Comin. Comment expliquer cette méthode brouillonne que vous évoquez ?
Je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu culturel. Autant la Corée, par exemple, est un pays qui est extrêmement organisé, qui va effectivement essayer d'avoir une politique d'influence culturelle extrêmement forte. On le voit même pour la culture pop, mais on le voit également pour les arts visuels, avec des galeries qui sont des galeries très institutionnalisées, qui sont très établies, avec des collectionneurs qui sont des collectionneurs identifiés de longue date. En Chine, les fortunes ont été très rapides, extrêmement récentes. Il y a beaucoup plus également une logique territoriale éclatée en Chine, des initiatives privées qui ont émergé de façon extrêmement spontanée, et donc également des artistes qui ont été repérés, qui ont été labellisés en quelque sorte par des décideurs assez concurrents les uns des autres. Et donc c'est quelque chose qui a été probablement beaucoup trop rapide, beaucoup trop spontané pour que les effets se fassent de façon très durable. Et puis il faut dire également que le décalage culturel entre le monde occidental ou quelques pays du monde occidental qui continuent d'être en quelque sorte les gatekeepers, qui continuent donc de labelliser au plus haut niveau, d'intégrer au plus haut niveau les artistes du monde entier et la Chine, et probablement ce décalage de compréhension artistique beaucoup plus marqué qu'il ne l'est par exemple avec l'Afrique. Même si ce continent est extrêmement vaste, nous avons quand même des référentiels communs qui me semblent faciliter la compréhension, l'interprétation même sur une durée de temps relativement courte de quels sont les artistes importants et quels sont les artistes destinés à rester durablement.
Alors, est-ce que ce que vient d'expliquer Alain Comin, Nathalie Obadia, peut expliquer la présence à Hong Kong de Art Basel, avec aussi probablement ce qui se passe à Hong Kong depuis deux ans, peut-être lève des quelques interrogations. En tout cas, voilà, le marché asiatique était plus facilement pénétrable depuis Hong Kong qu'un Art Basel Pékin.
Ah oui, donc ça, Art Basel Pékin, c'était absolument pas possible et ça ne pourrait pas aujourd'hui encore se faire, puisque bon, au-delà même des protections douanières qui sont assez incroyables, il y a maintenant aussi le fait de la censure. Je faisais encore deux ans la foire de Shanghai, qui était vraiment formidable, mais il fallait adresser six mois à l'avance, entre six mois et quatre mois, le nom des artistes, les photos des œuvres que nous devions exposer, puisqu'elles passaient vraiment dans un comité de censure. Et une ou deux fois, nous avons été recalés. Alors après, on s'auto-censure, c'est-à-dire qu'à la fin, on ne montre, on va dire, que des artistes dont on est sûr qu'ils ne vont pas être retoqués. Donc, on montre plutôt, on va dire, des artistes abstraits ou en tout cas loin d'une figuration ou de choses qui pourraient être tout à fait mal interprétées. Donc voilà, donc ça, de toute façon, la Chine, et ça c'était déjà à Shanghai, mais c'est ce qui va arriver à Hong Kong. La foire Art Basel existe toujours pour le moment à Hong Kong. Les galeries occidentales ne peuvent pratiquement pas y assister physiquement, puisqu'en plus il y a des délais il faut qu'on reste 15 jours dans un hôtel, enfin, donc c'est très compliqué. Mais au-delà de ça, il va y avoir une mainmise, bien entendu, aussi des autorités de Hong Kong sur le contenu de ce qui pourra être montré sur la foire de Hong Kong ou pas, ce qui n'était pas le cas avant. Donc tout ça va forcément poser des problèmes. C'est dommage, parce que aujourd'hui, donc, c'est évident que ce ne sera plus Hong Kong qui sera la porte d'entrée pour l'art asiatique. Peut-être Singapour, qui est un peu comme on dirait une Suisse en Asie. D'abord, on y parle anglais. Et c'est vrai que pour avoir quand même un certain nombre de collectionneurs asiatiques, je me rends compte qu'un grand nombre ont des domiciles où mettent leurs enfants à l'école, justement à Singapour. Donc, ça pourrait être le lieu de retrouvailles, justement, même de collectionneurs chinois, philippins, coréens, thaïlandais. Donc, c'est peut-être la prochaine base, on va dire, d'une grande foire occidentale en Asie. Mais juste pour reprendre ce que disait Alain Comin sur la Chine, ce qui est le problème de la Chine, c'est qu'au final, il n'y a jamais eu de musée public qui a montré l'art chinois contemporain. Ce sont que des initiatives collectif privé. Donc effectivement, c'était quand même branque-ballant comme politique.
On vous retrouve, Nathalie Obadia, avec Alain Comin, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur l'art contemporain, nous retrouvons nos invités par téléphone. Alain Comin, professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, contributeur de la presse artistique. Son dernier ouvrage, Le monde des galeries, art contemporain, structure du marché et internationalisation, paru aux éditions du CNRS. Et avec moi en studio, Nathalie Obadia, galeriste spécialisée dans l'art contemporain, avec trois espaces à Paris et un à Bruxelles. Nathalie Obadia, qui est enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain aux édition Le Cavalier Bleu. Alain Comin, on a terminé la première partie de l'émission sur la question de la Chine. On abordait l'art extra-européen pour essayer de comprendre un petit peu quels sont les continents qui montent. On n'a pas parlé, alors d'abord de l'Inde, en ce qui concerne l'Asie. C'est peut-être intéressant de s'y appesantir à ce stade de l'émission. Et puis les pays du Golfe qui se projettent comme des hubs artistiques à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie, qu'est-ce qu'ils apportent, Alain Comin ?
Alors, le sous-continent indien n'est traditionnellement pas une place très importante pour le marché de l'art, notamment parce qu'il manque de collectionneurs. Et je pense que les principaux collectionneurs indiens vont davantage acheter à Londres qu'ils ne vont acheter en Inde, même si en Inde, il y a deux, trois très bonnes galeries. Je pense en particulier à une galerie qui s'appelle Nature Morte. Mais en tout cas, l'écosystème n'est pas un écosystème extrêmement structuré. En Asie, ce qui me semble le plus intéressant à l'heure actuelle, c'est vraiment la potentialité qui semble se dessiner du côté de la Corée du Sud, avec Frieze, qui a décidé donc d'ouvrir une nouvelle foire, Frieze Séoul, qui peut venir concurrencer Art Basel Hong Kong, justement, par rapport à ces problèmes, notamment de liberté qu'évoquait Nathalie Obadia, et puis également par rapport à des questions tarifaires, par rapport à des questions de taxes, qui sont extrêmement favorables en Corée du Sud, également par rapport à la présence de collectionneurs très importants, de pouvoirs publics qui se mobilisent en faveur de l'art. Et puis on voit par exemple qu'une galerie internationale extrêmement influente, comme la galerie Tadaus Ropak, a ouvert une antenne il y a quelques mois à Séoul. Voilà. Alors sinon, pour le Moyen-Orient, je pense quand même que la situation a été vue comme un véritable Eldorado il y a une dizaine, il y a une quinzaine d'années, et que les choses sont davantage en devenir, là aussi, mais que tout va dépendre également des positions qu'on réussira à prendre, notamment les Émirats Arabes Unis, avec l'ouverture de leurs institutions culturelles de plus en plus importantes. Actuellement, il y a effectivement le Louvre qui joue un rôle très important. Quand aura ouvert également le musée Guggenheim, les choses pourraient également changer, la présence contemporaine pourrait devenir encore plus marquée.
Nathalie Obadia, sur les pays du Golfe, et l'Inde aussi.
Oui, alors l'Inde, je crois que Alain Comin a très très bien expliqué la position de l'Inde. On se dit quand même qu'avec plus d'un milliard de personnes, comment ce pays n'a pas émergé, n'a pas cherché à avoir un soft power même régional, alors ne parlons pas global, bien entendu. C'est un peu comme la Chine, finalement, sont les deux grandes puissances de cette partie de l'Asie, et personne n'arrive à devenir un modèle, personne n'a envie finalement de ressembler à un Indien, à un Chinois, donc c'est un petit peu pour ça que les collectionneurs n'ont plus envie d'acheter des artistes indiens contemporains mais chinois contemporains, parce qu'ils n'anticipent pas, on va dire, des choses très positives. C'est un peu ça, hein, pourquoi on achète, on continue à acheter américain, c'est parce qu'on anticipe le fait que voilà, le pays sera toujours là, qu'il sera toujours puissant, et que si on doit revendre, on a quand même plus de possibilités de ne pas perdre d'argent, en tout cas de faire des plus-values. Alors pour en revenir au Moyen-Orient, ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on parlait de mimétisme. Alors là, il y a un mimétisme qui se fait entre chaque pays. Déjà, entre les Émirats Arabes Unis qui ont voulu aussi copier ce que faisait le Qatar, qui est quand même, on va dire, un frère un petit peu ennemi. Et puis de l'autre côté, maintenant, on voit l'Arabie Saoudite qui était très, très, très en retard, parce qu'ils ont quand même une politique intérieure qui est quand même très compliquée. Et je ne vois même pas là aujourd'hui comment ils vont pouvoir avancer avec l'art contemporain, si ce n'est justement d'inviter des artistes à faire des œuvres, on va dire, très spectaculaires, mais qui n'ont pas de sens politique, artistique très poussé, puisque quand même la censure est quand même très très forte. Donc ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, vous avez employé le mot de hub. C'est vrai que c'est un hub, mais qui dit hub, je dirais que c'est un peu noyé dans la culture occidentale. C'est-à-dire que quand on voit ce que l'on expose dans ces musées, bon, il y a quelques artistes du Moyen-Orient, mais qui sont eux-mêmes obligés quand même de répondre aux critères de censure, et religieux qui sont toujours très, très forts.
La question de la figuration que vous évoquiez.
Alors voilà, qui est quand même.
À propos de la Chine,
c'est quand même très compliqué. Et puis d'un autre côté, il faut répondre à ces questions. Et puis après, pour pouvoir attirer, on va dire, les visiteurs, parce que si on ouvre des grands musées, c'est pour ouvrir le pays au tourisme. Et la réponse vous dites, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ils veulent s'ouvrir, ils veulent que les touristes internationaux viennent. Bon, eh bien, il est évident qu'on ira à Lula ou on ira dans les musées en Arabie Saoudite que si on est sûr d'y retrouver les grands noms de l'art occidental. Donc, ça devient un hub, mais qui profite surtout aux artistes anglo-saxons et pas forcément aux artistes de la région. Donc, d'une certaine manière, c'est un agrandissement, un élargissement du soft power américain et occidental.
Alors, puisqu'on parlait des Émirats arabes unis avec Abu Dhabi, Dubaï, il y a le Louvre à Abu Dhabi qui fait partie donc de cette stratégie, de cette dynamique de certains musées qui se projettent à l'étranger. C'est vrai pour la France, c'est vrai, on évoquait le Guggenheim, musée américain. Alors, il y a une polémique qui fait rage en France à propos du Louvre à Abu Dhabi et pas seulement. C'est une enquête qui porte sur un vaste trafic international de biens archéologiques sortie illégalement du Proche et du Moyen-Orient ces dernières années et qui a pris un tour spectaculaire avec la mise en examen le 25 mai dernier de l'ancien président directeur général du Louvre, Jean-Luc Martinez. Une affaire qui a commencé à défrayer la chronique lorsque le prestigieux Metropolitan Museum of Art de New York a annoncé en février 2019 qu'il allait rendre à l'Égypte un sarcophage acquis en 2017 auprès d'un marchand parisien pour une somme plutôt importante. Qu'est-ce que cela vous évoque, Alain Quemin, ce trafic international d'antiquités, le rôle des musées, des grands musées mondiaux dans ces affaires, tout cela a de quoi, étonner, pas étonner, ouais. En tout cas, le fait est là.
Je pense que justement, la bonne lecture est une lecture géopolitique. En l'occurrence, Jean-Luc Martinez n'est absolument pas un voyou. Le fait que l'ancien directeur du musée du Louvre ait été imprudent, et apparemment c'est ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête, était probablement dicté, parce que Jean-Luc Martinez est un grand serviteur de l'État, par la volonté, peut-être un petit peu trop rapide, de permettre au Louvre à Abu Dhabi d'acheter certaines œuvres qui sont de véritables chefs-d'œuvre du Moyen-Orient, mais dont l'origine était insuffisamment précise ou dont l'origine pouvait être un petit peu douteuse, mais qu'il a probablement fait passer son rôle de grand serviteur de l'État, voulant permettre d'acquérir des œuvres rapidement pour les présenter au Louvre à Abu Dhabi, sans faire preuve de toute la prudence, qui normalement était censé être exigé de ses compétences. Et de la même manière, on peut aujourd'hui se demander si, lorsque le Salvator Mundi, donc là ce tableau qui est présenté par certains comme étant une œuvre originale, autographe, entièrement due à Léonard de Vinci, ce qui est contesté par d'autres, mais qui avait été apparemment un temps envisagé par le musée du Louvre pour figurer dans un catalogue des œuvres de Léonard de Vinci avant d'être retiré en toute dernière étape, n'a pas là aussi fait l'objet d'une bienveillance, on va dire, guidée par des considérations géopolitiques entre la France et certains États du Moyen-Orient.
Nathalie Obadia, votre commentaire.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que c'est la multiplication des musées dans certaines régions qui sont nouvelles. Et donc, cette compétition entre ces musées qui font que des acquisitions se font trop rapidement. Il faut remplir. Le Louvre à Abu Dhabi, il fallait qu'il ouvre. Il fallait bien qu'il ouvre avec des œuvres qui arrivaient de manière assez rapide. Et c'est un petit peu ce qui était arrivé au Getty. Le Getty fait quand même partie de ces musées, le musée de Los Angeles, qui a quand même souvent été cité pour justement avoir acquis des œuvres ou fausses, ou en tout cas avec des certificats un peu douteux, parce qu'à un moment donné, la mission du Getty était d'être pratiquement au même rang que le Met de New York, donc il fallait remplir très très vite. Voilà. Donc ça, c'est un peu la compétition qui se fait aujourd'hui avec ces nouveaux musées, donc un risque. Et donc, forcément, s'il y a un risque, il y a des failles. Dans les failles, il y a toujours des esprits malins pour répondre aux désirs, justement, de certaines autorités pour acheter.
Alors, vous parlez d'acquisition trop rapide, mais tout de même, un projet comme celui du Louvre à Abu Dhabi est un projet qui a pris des années, Nathalie Obadia, peut-être une décennie.
C'est pas très long. Puisqu'il faut bien le remplir de chefs-d'œuvre. Le Louvre à Abu Dhabi, on ne pouvait pas montrer que des œuvres qui avaient déjà été montrées ailleurs. Il fallait trouver des œuvres qui n'avaient jamais été montrées, ou en tout cas qui faisaient office de trésor. Donc, 10 ans, c'est rien, finalement.
Mais tout de même, alors si on élargit la question à l'incommun, ça reste cette affaire, ces affaires, parce que le Metropolitan Museum of Art a aussi impacté peut-être d'une autre manière, mais en tout cas, ça donne une mauvaise image de nos grands musées occidentaux à une période où on voit des pays procéder à des demandes de restitution, que ces restitutions se font. Enfin, voilà, ça va venir alimenter tout ce débat également, Alain Comin.
Absolument. Là encore, cela donne une image un peu brouillonne de l'action de ces grands musées, une action effectivement imprudente, et puis un manque de respect également pour les pays dont le patrimoine est pillé. Mais je pense vraiment que davantage que de malveillance, il s'agissait d'une volonté de satisfaire certains pays qui, justement, sur une période de temps relativement courte, 10 ans, c'est assez peu, essayent d'acquérir des trésors. Et les trésors, ils n'apparaissent pas aussi souvent que cela sur le marché. Donc, probablement que les autorités, qu'il s'agisse, dans le cas particulier qui nous concerne en France, donc le musée du Louvre, a été très imprudent parce qu'il voulait faire plaisir à ses partenaires du Moyen-Orient et faire plaisir à ses partenaires du Moyen-Orient au nom de la raison d'État.
Alors, imprudent, c'est peut-être aussi, d'une certaine manière, débordement, quand on sait que les printemps arabes de 2011 ont quand même fait aussi que, voilà, il y a tout à coup beaucoup d'objets qui n'auraient jamais dû sortir des pays qui sont sortis des pays. Et la question aussi de la guerre en Syrie.
Toutes les guerres ont suscité les soulèvements politiques, géopolitiques, ont soulevé forcément ce genre de problème. Déjà, bon, des familles spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis après, effectivement, des actions de groupes politiques, comme en Syrie, mais on sait très bien que ça alimentait finalement les caisses de certains groupes. Ça alimente le terrorisme, enfin, ça, voilà, ça a toujours existé. Donc, il faut être de plus en plus vigilant, mais je dirais que malheureusement, cela fait partie de la vie, et puis des problèmes, justement, en période de guerre. Mais c'est aux spécialistes d'être de plus en plus vigilants, mais c'est compliqué, parce que quand on lit l'article de Roxane Azimi dans Le Monde, on s'aperçoit que, finalement, la manière dont le dossier est monté, c'est incroyable. Le fait de mettre en vente des œuvres qui, au départ, n'étaient pas très chères, et puis d'en mettre de plus en plus chères pour passer inaperçu, ce sont des méthodes très sophistiquées.
Et on est aussi assez étonné d'apprendre que le service des musées de France n'est pas armé sur le plan des moyens financiers et en équipe pour détecter les trafics. Et là aussi, on est dans une sorte de précipitation.
C'est de l'empirisme des deux côtés. Donc, bien sûr, c'est forcément très complexe.
Alors avec cela, on a quitté l'art contemporain, mais c'était important.
Justement, c'est pour ça que l'art contemporain, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de pillage. Les faux, c'est quand même beaucoup plus rare. Et justement, j'ai eu cette réflexion quand j'étais à la foire de Maastricht, où un collectionneur m'a dit, écoute, effectivement, en allant acheter dans une galerie d'art contemporain, on est sûr de ne pas avoir les mêmes problèmes que si on va acheter un artiste, une œuvre dans une galerie d'art premier ou d'archéologie, parce qu'il peut y avoir justement après des problèmes quant au pillage ou de problèmes de restitution, savoir de provenance. Donc c'est sûr que ça multiplie les problèmes.
Alain Comin, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Non, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Nathalie Obadia. C'est le côté le plus effectivement rassurant de l'art contemporain. Il y a une forme d'incertitude sur la valeur à venir, la cote donc que vont pouvoir acquérir les œuvres, parce que justement, nous n'avons pas encore la distance dans le temps qui permet de stabiliser les valeurs comme pour l'art ancien. Mais en revanche, l'authenticité est quelque chose qui est beaucoup plus facile à établir dans le cas de l'art contemporain que dans le cas de l'art ancien.
Alors, on poursuit à nouveau sur l'art contemporain. J'ai cette question que je vous pose à vous, Nathalie Obadia, qui est une femme galeriste sur la place de Paris. Est-ce que d'après vous, les femmes ont la place qu'elles méritent dans l'industrie de l'art aujourd'hui ?
Alors, je suis une galeriste. Je suis femme. Je n'ai jamais, en tout cas, dans ma programmation, essayé de de genrer, on va dire, les expositions. Il se trouve que depuis les débuts de la galerie, j'ai montré un certain nombre d'artistes femmes. Et après, en y réfléchissant d'abord parce qu'elles me plaisaient, et deuxièmement, je dirais qu'il y a une trentaine d'années, il est évident qu'elles étaient plus marginalisées qu'aujourd'hui. Donc j'ai pu avoir accès plus facilement à certaines que j'accompagne d'ailleurs encore aujourd'hui. Je pense notamment à Fiona Ray ou Carole Benzaken, qui étaient des artistes, voilà, le fait qu'elles étaient femmes posait plus de problèmes à mes collègues qu'à moi-même. Donc, en tout cas, grâce à ça, je les montre et d'autres encore. Par contre, pour revenir à la place, je dirais qu'aujourd'hui, je suis toujours très gênée avec cette question, parce que j'estime... je montre, par exemple, j'expose Laure Prouveau depuis une dizaine d'années. Elle a représenté la France à Venise en 2019. On a vu effectivement ce qu'était le talent d'un grand artiste aujourd'hui de la scène française, original, professionnel, généreux. Voilà, donc je pense que... Et alors, elle expose dans tous les grands musées du monde. Elle est entrée dans les collections de tous ces musées. Il n'y a pas de fatalité, vraiment, comme ça. J'aime pas cette victimisation. Aujourd'hui, c'est très difficile. C'est pas très honnête, comme ça, d'en parler. Mmh. On va dans les écoles d'art. Il y a quand même un certain nombre d'artistes femmes qui sont là. Et je vois pas aujourd'hui des galeries, des commissaires d'exposition, des critiques d'art marginalisés. J'espère surtout qu'on essaye de marginaliser plutôt les artistes qui apportent rien. Voilà, et qu'on laisse s'exprimer et qu'on donne leur juste place à ceux qui apportent quelque chose, quel que soit leur sexe.
Non, il n'était pas question dans ma question de parler de victimisation. Néanmoins, le monde de l'art, les peintres du 19e, enfin, il y avait quand même beaucoup plus d'hommes
bien sûr.
que de
c'était
femmes.
Normal. De toute façon, elles ne pouvaient pas rentrer comme élèves à l'école des Beaux-Arts. Mais ça, c'était totalement sociologique. On le voit même encore à l'intérieur du Bauhaus, cette fameuse école d'avant-garde allemande, entre les deux guerres, et bien on s'aperçoit que les femmes qui y entraient, et pourtant les professeurs, c'était pas n'importe qui, leur disaient d'aller dans l'atelier justement de tricot, de tissage, et il fallait pas qu'elles puissent aller dans l'atelier de peinture. Elles auraient été dans l'atelier de peinture, peut-être que la femme de Joseph Albers aurait été beaucoup plus importante que même que son mari. Mais c'était sociologique, ça n'avait rien à voir avec... et on voit qu'aujourd'hui, où justement les femmes peuvent accéder aux meilleures des écoles d'art, elles sont des grands artistes comme les hommes.
Alors je vais me tourner vers... Oui, Alain Comin.
Oui, par rapport à cette idée-là, aujourd'hui on assiste en effet, donc là je suis entièrement d'accord avec Nathalie Obadia, à un effet de rattrapage qui fait que les femmes sont un peu plus présentes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans, où leur absence était véritablement problématique, à la fois sur le marché de l'art et au niveau des institutions. Mais pour autant, on peut quand même faire mieux pour représenter les femmes. Si on voit par exemple les grandes institutions françaises, le Musée national d'art moderne est quand même aujourd'hui encore extrêmement frileux pour consacrer de grandes expositions rétrospectives aux artistes femmes. Il peut faire mieux. Dans les grandes institutions états-uniennes, eh bien, depuis quelques années, les femmes sont vraiment beaucoup plus présentes, me semble-t-il, qu'elles ne le sont en France. Et puis, on voit également que les femmes, en tant que telles, parfois ont des choses à apporter que n'apporterait pas forcément un artiste homme. J'étais à la galerie David Sperner qui montrait Barbara Kruger, une artiste féministe des années 80, et vraiment l'exposition que j'ai vue, donc là même carrément dans une galerie, non pas dans une institution, était complètement nécessaire dans la période actuelle de remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis. Les travaux de Barbara Kruger avaient une force, une puissance qui était absolument indispensable. Donc je crois qu'on devrait essayer de faire plus qu'on ne fait en France pour les artistes femmes, même si je suis d'accord avec Nathalie Badia, ça ne peut pas être le critère de jugement unique. Il faut quand même faire attention à être davantage juste. C'est vraiment le terme qui s'impose vis-à-vis de ces créateurs, ces créatrices.
Nathalie Badia, en quelques secondes, un mot de conclusion peut-être sur les évolutions que vous imaginez du marché de l'art contemporain.
On va regarder du côté de chez moi, c'est-à-dire que je suis très heureuse que Paris retrouve une place vraiment très importante Et comme le disait Alain Quemin, je pense qu'elle le trouve aussi à travers sa création contemporaine. Et c'est un tout. Voilà. Donc de plus en plus, Paris est regardé à nouveau par tous les acteurs internationaux. Et je pense que d'ailleurs, au mois d'octobre, au moment du lancement de Paris Plus et du programme d'exposition qui se fait tout autour, on va pouvoir être fiers de notre scène.
Merci Nathalie Obadia. Je rappelle que vous êtes galeriste spécialisée dans l'art contemporain avec 3 espaces donc à Paris et 1 à Bruxelles. Et que vous êtes enseignante à Sciences Po et auteure de Géopolitique de l'art contemporain aux éditions Le Cavalier Bleu. Et Alain Quemin, professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8, contributeur de la presse artistique, et son dernier ouvrage intitulé « Le monde des galeries, art contemporain, structure du marché et internationalisation » paru aux éditions du CNRS. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, c'est Amélie Beaucourt que vous retrouverez.